Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du Forumcast, le podcast de forum.com. Je suis le luminescent Addy Boy et je suis comme d'habitude entouré de mes deux acolytes, l'effervescent Metal Neo.
Bonjour.
Et le turgescent Travis.
Bonjour. Et merci.
Après cette courte introduction au programme donc de ce 9e épisode, comme d'habitude, de nos actualités récentes, puis viendra le gros morceau du moment, la série American Gods, dont nous avons pu voir chacun au moins un épisode. Mais d'abord, les actualités. Et si on commençait avec Metal Neo ? On
t'écoute. Moi, tiens.
Alors moi, mon actualité du moment, c'est une actualité qui va en fait boucler avec une actualité récente aussi. Je ne me rappelle plus dans quel podcast on en avait parlé, mais il y a 2-3 podcasts, peut-être un peu plus. J'avais fait mention du retour de Marvel et Agents of S.H.I.E.L.D.
Ouais.
qui ont refait une légère pause là récemment dans leur dernière partie de saison. Voilà, j'avais juste envie de souligner que c'est toujours aussi bien que ce redémarrage qu'on en avait parlé avec Travis, qui nous avait un petit peu redonné un coup de fouet. Moi, j'avais dit que cette reprise au départ m'avait semblé un petit peu, un peu molle, un peu ennuyante. J'avais utilisé un peu des termes forts, mais c'était vrai, sur le moment, je voyais pas trop où ça voulait en venir. Et le dernier épisode, juste avant cette pause, les deux derniers épisodes étaient vraiment super. Et la fin de saison s'annonce être vraiment très très bonne. Je pense que Travis peut le confirmer au niveau des commentaires récents qu'il a pu lire sur le site.
Ouais, il y a des très bonnes notes. Alors, beaucoup de 19, notamment sur le dernier, je crois.
Ouais.
Et globalement, les gens apprécient. Alors, personnellement, je n'ai pas encore suivi. J'avais un peu des doutes que j'avais exprimés aussi lors du podcast sur le concept en lui-même.
On peut en parler peut-être maintenant.
Allez, on va en parler. On prévient, parle. Voilà.
C'est un mini spoiler sans forcément dire ce qui s'est passé dans le dernier épisode.
Je signalerai du spoiler avant, dans le post.
Mais c'est vrai que là, en fait, cette fin de saison, on va dire, pour spoiler vite fait, ça se passe un peu dans un effet à la Matrix, où les personnages principaux sont plongés dans une réalité alternative qui est une réalité informatique.
D'accord.
Ils sont tous plongés dans ce qu'on appelle le framework, qui est une matrice énorme dirigée par une intelligence artificielle très poussée. Et chacun de ces personnages vit une autre vie, mais qui est basée sur un point particulier de leur vie précédente, qui a été altéré, et quelque chose qui leur a été redonné, par exemple une personne qui était morte et qui ne l'est plus, ou une envie de poursuivre une carrière dans un certain métier ou quoi. Donc bon, et leur vie évolue dans cette matrice, et c'est super intéressant parce qu'on voit tous ces personnages dans un autre contexte, on voit d'autres personnages revenir, enfin, et c'est tout bien ficelé avec cette intelligence artificielle qui prend le rôle d'une personnalité très connue au sein de l'univers Marvel, un grand méchant, qu'elle n'était pas à la base, et qu'elle devient dans cet univers alternatif. Et donc voilà, c'est super intéressant. Ils ont réussi vraiment à rendre le truc très passionnant. D'ailleurs, le dernier épisode, il y a un certain retournement aussi que je te conseille de regarder rapidement, Travis. Moi je suis content, c'est ce que je voulais que ça se renouvelle un peu sur la fin, que ça redevienne un peu excitant, et je pense que c'est un pari bien réussi, puisque apparemment il y a une 5e saison qui a été commandée.
Tout à fait.
Donc voilà,
pour
moi,
revenir
c'est tant mieux, quoi.
Au dernier épisode, il a 5-19.
5-19.
Les personnes qui ont noté ont mis 19.
Bah, très bien, j'en rajoute un alors, parce que c'est vrai que le dernier était particulièrement sympa, surtout les quelques secondes à la fin, mais j'en dirai pas plus.
Merci.
Donc ça c'était
très bien.
C'est la saison 4, hein.
On est là, on en est à la saison 4 et là on arrive sur le final, hein, je crois. Final.
Juste pour situer, l'épisode dont on parle, c'est le 21, mais c'est à partir du 18, si je dis pas de bêtises, qu'on est rentré le framework.
Ouais.
Et je vais regarder ça du coup, forcément.
Donc moi, suivant la série de très loin, parce que ça ne m'a jamais vraiment attiré, je me souviens que la saison 4 marquait l'arrivée de Ghost Rider.
Tout à fait.
Sous sa forme, pas vraiment chevaucheur de moto, mais plus de
sur la Cadillac, c'est un des personnages de comics, hein, c'est le deuxième Ghost Rider.
Oui, c'est
un jeune, Robbie Reyes.
Voilà, Robbie Reyes. Et du coup, je vais un peu me spoiler volontairement pour la fin de la saison, quoi.
Je le conseille, c'est assez sympa.
Ça a l'air assez intéressant. Ok, bon, bah, merci pour ton actu.
Mais
du coup, Metal Neo, on va passer à moi. très chers auditeurs, pour mon plus grand déplaisir, je suis allé au cinéma m'infliger...
Tu dis ça maintenant, après avoir vu, mais c'était pas ce que tu disais avant d'y aller.
C'était pas ce que je disais.
Phrase-le différemment.
Oui, je suis allé voir...
Tu étais très excité d'aller voir.
J'étais très excité à l'idée d'aller voir Alien Covenant.
Voilà.
Je suis ressorti de la salle avec un sentiment... de déception,
de vol et de viol de mon portefeuille
et viol des souvenirs que j'avais de la saga Alien,
de l'enfant qui était en toi,
du petit xénomorphe qui vivait dans mon torse. Non, mais Alien Covenant, donc réalisé par Ridley Scott, qui est quand même le père de la saga, en quelque sorte, pères de la saga, puisque c'est lui qui a réalisé le premier film. On peut donner... En fait, on
qui
peut
est revenu
dire
avec Prometheus, après.
On peut dire que, grosso modo, il y a trois créateurs à Alien. Il y a Ridley Scott qui a fait le premier film, Dan O'Bannon qui a créé le personnage et fait le scénario du premier film, et Hans Rudi Giger qui a designé la créature, qui lui a donné cet aspect extrêmement malsain, à la limite du sexuel, en fait.
Ouais, on dirait un petit peu un...
L'alien est une... comment dire, par son mode de reproduction, c'est une métaphore du viol, parce que concrètement, il insère quelque chose en toi dont tu veux pas et qui finit par te tuer, et de par même sa forme extrêmement phallique au niveau
luisante,
de la tête,
et luisante,
un peu comme Travis.
Ça va être le thème du podcast, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Donc Alien Covenant, c'est la suite de Prometheus qui était sorti il y a...
Qui sont eux-mêmes donc tous des préquels à Alien.
Exactement, ce sont des préquels, ça se passe avant le premier Alien. Donc Covenant se passe 10 ans après Prometheus. Je ne vais pas spoiler au niveau de l'histoire, je vais juste vous faire un résumé rapide. On y suit donc le vaisseau Covenant, qui est chargé de se rendre à travers la galaxie pour coloniser une nouvelle planète. À son bord, 2000 colons endormis en état de stase et une quinzaine de membres d'équipage. À la suite d'un incident, les membres d'équipage vont capter un signal audio d'origine apparemment humaine, provenant d'une planète qui se trouve sur leur trajet, et sur laquelle ils vont décider du coup d'investiguer, de se rendre sur place pour enquêter, pour savoir qu'est-ce que c'est que ce signal à l'autre bout de l'univers, alors que normalement jamais aucun être humain n'a mis les pieds dans cette partie-là de l'espace.
En gros, c'est un peu déjà le scénario du 1, quand même.
Oui, ça reprend grosso modo le scénario du 1, quoi, avec le Nostromo qui capte un signal de détresse. Voilà. On va commencer par ce qui va dans le film, et ça va aller très vite. Michael Fassbender fait bien le taf. Michael Fassbender revient, donc il tenait le rôle de l'androïde David dans Prometheus. Là, il revient sous une nouvelle forme, donc Walter.
C'est une évolution de cet Android.
C'est l'équivalent de l'iPhone 7 par rapport à l'iPhone 6, grosso modo. C'est un Android plus évolué.
Entre le 6 et le 7, il n'y a pas beaucoup de différence quand même.
Le 5 et le 7, voilà, on va dire. Et c'est à peu près tout. Il est très bon. Il en a quelque chose à foutre, contrairement à sa prestation dans le dernier X-Men, par exemple.
Ouais.
Où là, il en avait,
il était
là pour cachetonner.
C'est ça, ouais, ça donnait cette impression.
Après, ce qui ne va pas, toute l'histoire ne tient pas debout. Là aussi, c'est envoyer chier manifestement tout ce qui a été fait avant lui.
Après lui.
Chronologiquement, après le premier Alien. C'est-à-dire que...
Il n'a jamais vraiment caché, j'ai l'impression quand même, que la suite de sa saga Alien, il n'en a jamais vraiment... Il n'a jamais vraiment apprécié ce qui se passait après son film, en fait.
C'est ça.
Il prend peut-être un peu cette occasion-là de réécrire l'histoire et de se réapproprier son bébé, on va dire.
C'est exactement ce qu'il fait, mais le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que... Scott a réalisé le premier film, James Cameron a réalisé le second dans une optique beaucoup plus action. Et il a introduit le principe de la reine alien, le concept de la reine alien qui est parfaitement logique de par l'origine des œufs, quoi. Voilà, c'est des œufs, c'est pendu, quoi. Et Scott ne s'est jamais caché que c'était un concept qu'il détestait, qu'il appréciait pas du tout, parce qu'il expliquait en partie d'où venaient les aliens, d'où pouvaient venir les aliens. Alors que lui, il aimait bien cet aspect, c'est des œufs dans la cale d'un vaisseau extraterrestre dont on connaît rien. Et du coup, dans cette optique-là de renier ce qu'a fait Cameron et par la suite Fincher et Jeunet, il a décidé de réécrire complètement l'origine de l'alien, donc du xénomorphe, et de la façon par laquelle il a pu naître. Parce qu'on avait un début de réponse dans Prometheus avec la présence de ce liquide noir, de ce mutagène bizarre.
Avec les ingénieurs.
Avec les ingénieurs, voilà. Et du coup, Scott a décidé de complètement réécrire ça. Ça donne un résultat vraiment débile, dont j'aimerais bien que les auditeurs, si jamais ils ont vu le film, parlent dans les commentaires, me donnent leur avis, parce que j'aimerais savoir si je suis le seul à penser ça.
J'ai pas l'impression. Après, moi, je pour être honnête, moi, je l'ai pas vu. Le frein que j'ai pour aller le voir, c'est que je pense qu'il est extrêmement violent.
Il est extrêmement
et
violent.
Et je suis vraiment pas fan de ça. C'est vraiment juste... J'aime pas aller au cinéma ou voir des films où ça charcute dans tous les sens. Malgré ça, j'avais aimé Prometheus, et je sais que beaucoup de monde n'aime pas. J'ai pas vraiment vu la saga Alien à l'époque où il fallait la voir. J'étais trop jeune. Donc, je me suis intéressé à cette saga beaucoup plus tard. Et notamment, Prometheus a été ma première porte d'entrée.
Ouais, ta porte d'entrée.
Et j'ai apprécié. Là où d'autres gens n'ont pas aimé parce que ça s'éloigne peut-être de la saga Alien. Quoi. Moi, j'ai apprécié parce que je trouve que c'était un très beau film. Il est très, très bien filmé. Il est très joli. Les images sont splendides et tout ça.
Ouais.
Puis après, bon, l'histoire, ça ne m'a pas trop dérangé parce que je rentrais dedans pour la première fois. Maintenant, ce film-là m'intéressait énormément parce que je me suis dit, j'ai bien aimé Prometheus. J'ai envie de voir où ça va. Mais maintenant, j'ai cette barrière du très violent, donc je pense pas que je le verrai. Mais je me suis énormément renseigné dessus, notamment par rapport à ce que tu as dit. On en a un petit peu parlé déjà ensemble. J'aime beaucoup regarder de commentaires et de choses en ligne depuis qu'il est sorti. Et beaucoup de commentaires vont dans ton sens. J'ai vu énormément d'avis très négatifs sur le fait que c'est pas cohérent, ça tient pas la route et il détruit lui-même plus ou moins sa licence. Ça a l'air dommage parce que... c'est un univers qui mériterait d'être bien étendu parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec.
Il y a des choses à faire avec.
Et ça a même été fait, hein. Il me semble qu'il y a d'autres médiums qui sont utilisés pour étendre cet univers, notamment les comics et les jeux vidéo. Et il me semble qu'il y a le jeu vidéo Alien Isolation qui a toujours
Alien
eu que
Isolation,
des très bonnes notes et qui est vachement bien. Donc il y a quelque chose à faire et à étendre, ce serait intéressant de faire des bons films dessus. C'est dommage si les films de Ridley Scott ne vont pas dans son sens.
C'est pas le cas.
Surtout qu'on est parti pour 6 films, là, je crois.
Voilà, il a l'intention de s'accrocher comme un morpion à sa licence, donc il a prévu 6 films. Il veut d'ailleurs commencer à en tourner un à la fin de l'année.
Ouais, c'est The Awakening ou quelque chose comme ça,
ouais,
je crois.
Alien Awakening. Donc, voilà. Donc, oui.
Dommage.
L'histoire est débile. Le comportement des personnages est tout aussi erratique et stupide. C'est-à-dire qu'ils sont capables... À la limite, dans Prometheus, quand ils arrivaient sur la planète étrangère, inconnue, ils débarquaient avec des combinaisons avec scaphandres, donc étanches. Là, on balance un petit scan de la planète pour vérifier si l'air est respirable. Oh, de l'air est respirable.
Alors, du coup,
on peut sortir, tranquille. Pas un masque à gaz, pas une combi de protection, rien du tout. C'est la stupidité incarnée.
Ouais, c'est le slasher, quoi. Le film, c'est
genre... Ah,
il y a de la lumière là-bas, bah allez, on y va, quoi.
Mais c'est un slasher avec des aliens albinos qui font du kung-fu. Voilà, je te mets l'eau à la bouche juste avec ça.
Ça donne envie. Hein.
Ça donne vachement envie. Donc le film est aussi très très gore. Il est très moche. Direction artistique niveau zéro.
C'est vrai.
Il y a rien.
Et j'aurais cru qu'après Prometheus, on aurait gardé la même. Non.
Même pas. On retrouve des éléments de Prometheus, notamment ces grandes faces sculptées de
ouais, les ingénieurs.
Au passage, si vous comptiez avoir des réponses sur les ingénieurs à la suite de Prometheus, n'y comptez pas, parce qu'ils n'en donnent absolument aucune. Donc, pour faire simple, c'est Ridley Scott qui se torche avec un alien, et ça donne Alien Covenant.
D'accord.
Voilà.
Du coup, on conseille ça uniquement aux enfants de moins de 10 ans, c'est ça?
Ouais, si tu veux les traumatiser à vie, ça peut être sympa. Donc voilà, ouais, non,
c'est dommage.
C'est un échec complet, c'est vraiment dommage.
Bon.
C'est vraiment dommage.
On note. Moi, ça me tentait pas. Pour moi, le Covenant, ce sera toujours Alias, c'est pas Alien.
C'est pas faux.
Ok. Ça marche, Jennifer Garner. Si tu le dis. Du coup, en parlant de Travis.
Oui, tout à fait. Donc moi, mon actu, elle va être... un peu plus glorieuse que la tienne, mais t'avais mis le plancher déjà très bas, on va dire. Hein.
Ouais.
C'est Riverdale.
Archie,
où j'ai fini la saison 1. J'ai passé un bon moment. Je lui ai mis 14 un peu généreusement sur le site, en notant la saison dans son entièreté, on va dire. C'était plutôt sympa. Moi, j'ai des personnages très, très, très attachants, comme Véronica et Betty. Et il y a des chose beaucoup plus gênante, comme l'intrigue et la résolution du meurtre qui est un peu imprévisible, et au final ça tombe un petit peu à plat, j'ai trouvé, tout comme le final de la saison 1 qui tombe aussi un peu à plat. Mais globalement, un bon moment, un bon guilty pleasure, comme on dit, un bon teen soap, pour le coup, un vrai teen soap, pas comme 13 Reasons
Why, voilà, moins
qui
de
était
look.
Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai adoré, mais bon. C'est sympathique et c'est plutôt, ça se regarde. Pour ceux qui aiment bien ce genre-là, c'est bien. Après, là, on en parlait sur le site, j'ai appris que dans la saison 2, était envisagé que Sabrina... L'apprentie sorcière
ouais.
rejoigne le casting, rejoigne la série, pas l'actrice, mais le personnage.
Non, le personnage.
T'en déconnes.
Ouais. Alors que dans la saison 1, il n'y a aucun aspect paranormal.
Ouais.
Ils vont juste jumeler. Alors,
Sabrina... C'était envisagé, je pense. Bah, peut-être que quelqu'un saura mieux le dire que moi, que c'est basé sur les comics et que c'est comme ça dans les comics.
Les Archie Comics.
D'ailleurs, quand on recherche, j'ai un petit peu regardé, il y a des images des comics qui mêlent les deux. Pour le coup, ça me choquerait vraiment que ça tombe dans du paranormal alors que c'était...
Est-ce que, en vraiment deux secondes, tu peux me résumer vite fait juste le truc, parce que j'ai suivi loin, je vois pas trop ce que c'est.
Riverdale, c'est une petite ville classique des États-Unis, je sais même plus où elle se situe, et c'est centré sur le meurtre d'un des élèves.
Du lycée local,
exactement. C'est du Twin Peaks dans l'idée,
voilà.
Sans l'aspect justement paranormal que peut avoir Twin Peaks, sans non plus la qualité de Twin Peaks d'écriture, même s'il y a des dialogues sympas dans Riverdale, mais malheureusement il y a aussi des dialogues très lourds. Et c'est vraiment basé sur ça et sur les interactions entre les parents aussi, etc. C'est vraiment du teen soap, comme même du soap un petit peu recherché par moment, mais classique, on va dire.
Okay.
Et là, c'est centré sur cette intrigue de meurtre qui se résout en fin de saison, etc. Donc, aucun aspect paranormal dans toute la saison. Et là, éventuellement, soit le personnage arriverait, mais ferait ou croirait avoir peut-être avoir des pouvoirs magiques, mais sans vraiment en avoir, on ne sait pas. Et ça me fait un peu peur. Ça serait un petit peu gâché.
Ça n'a pas été annoncé le 1er avril, cette histoire, non c'est...
Non, je ne crois pas. Il me semblait avoir lu ça et ça m'a été confirmé par, je crois que c'était Wheeler sur le site. Donc, à suivre, en sachant que ce serait vraiment dommage de gâcher cette série qui n'est pas exceptionnelle, mais qui se laisse regarder. Voilà.
Oui, c'est assez surprenant d'apprendre ça. Moi qui suis ça de loin, je vois pas du tout ce que c'est, mais vu ce que tu en disais, j'ai l'impression que c'était vraiment cette série sérieuse, enfin du moins dans un univers cohérent. Et là, il y a un élément qui vient probablement perturber ça, mais. C'est même mettre un grand coup de pied dedans, de dire que ta première saison est complètement normale et de passer sur un truc où potentiellement ça pourrait être paranormal, c'est bizarre.
J'avais lu ça aussi, que ce serait plus dans presque une série d'horreur en saison 2, alors que ça ne correspond pas. Oui. Donc il y a pas mal de rumeurs, il va falloir faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. De toute façon, la série a été renouvelée récemment, donc il n'y avait rien de sûr et rien de figé pour l'instant. Donc à suivre, voilà. Mais en tout cas, ceux qui aiment bien ce genre de série, je la conseille pour les quelques personnages intéressants qui ne sont, je n'inclus pas dedans Archie qui est pas très
Jughead, il est bien.
Jughead, il est bien. Alors Jughead, on va en parler rapidement parce que c'est une petite anecdote qui a circulé sur le net et qui m'a amusé. C'est donc un ado brun qui a l'acteur doit avoir la vingtaine et c'est en fait celui qui a incarné Ben, le fils de Ross dans Friends. Ben, qui était tout petit blond, qui avait peut-être 8 ans, je sais pas.
Oui. Et, l'un des deux Ben, parce qu'ils étaient deux, c'était des jumeaux.
Je crois que c'est des jumeaux.
Oui, non, c'est sûr, c'est des jumeaux. Ouais.
D'accord.
De toute façon, dans ces séries, c'est toujours des jumeaux obligés quand tu as des gamins.
Les sœurs Olsen, etc. Ben, en tout cas, là, ça m'a marqué parce qu'il a pas mal changé. Il a pas la même couleur de cheveux déjà.
Ouais.
Et je pense pas que ce soit une teinture ou quoi. Mais... Et l'acteur est plutôt pas mal. C'est le. Un des. Enfin,
lui, donc, ce gamin-là. Enfin, le gamin qui était dans.
Ouais.
Parce que franchement, dans Friends, il était pas terrible.
Ah, il était mauvais dans Friends. Faut le dire honnêtement. C'était un enfant, mais on avait vraiment l'impression que c'était un enfant pseudo-acteur qui récitait ses lignes, quoi. Donc, là, pour le coup, très bien. Mieux que Archie.
Il y a Luc Perry aussi dans la série.
Il y a Luc Perry. Le casting des adultes est plutôt sympa. Il y a Marisol Nichols, qui est une actrice.
Matchen Amick,
qui est très très bien dans la série.
Ross Butler, il était pas dans le, il y a un genre de jeune asiatique, il était pas aussi dans 13
exactement. 13, alors petite anecdote aussi, enfin petite info, c'est l'asiatique le très fort en sport là,
le basketteur dans
13 Reasons Why, et il va être recasté dans la saison 2 de Riverdale par un autre acteur qui lui ressemble un peu. Parce que justement, il a 13 Reasons Why, à qui il a donné priorité, qui a été renouvelé avant.
Ouais.
Et voilà. Donc il avait un rôle assez mineur, hein, franchement, dans Riverdale. Mais apparemment, ils veulent le réutiliser, ce personnage, et ils doivent le recaster. Ce qui a été fait. Hein.
D'accord.
Voilà, donc bon, Riverdale, pour ceux que ça intéresse, uniquement.
Ouais, petit guilty pleasure, ça me branche bien, parce que du coup, je m'étais renseigné sur les Archie Comics qu'il y a derrière. Et mine de rien, ça m'étonne pas trop, tu vois, qu'ils prennent une orientation un petit peu plus surnaturelle sur la saison 2, parce que les comics sont là aussi très... apparemment très différents les uns des autres, quoi. Tu peux avoir Archie Mystère et compagnie, Archie au lycée, Sabrina l'apprenti sorcière. Après, je sais pas, ça peut être intéressant, voire même sympa. Quoi.
La saison 1 n'était pas une catastrophe du tout, donc s'ils se débrouillent bien,
voilà.
Pourquoi pas.
Pas une catastrophe, pas une grande série non plus.
Voilà, ça peut être une série aussi à regarder en rigolant, on va dire. Hein.
Second degré, ouais.
Ouais. Bon, moi, j'ai regardé ça plutôt au premier degré, mais, mais ah, je pourrais comprendre que la regarde en deuxième, et dans tous les cas, c'est un bon divertissement, on va dire.
D'accord.
Selon moi, en tout cas.
Ok. Bon, bah du coup, on a terminé nos actualités. On peut passer au gros morceau de cet épisode.
Un des deux gros morceaux.
Ouais, un des deux gros morceaux.
On va aussi parler de The Handmaid's Tale.
Ah oui, si. Oui,
même si j'aime pas prononcer le nom.
The Handmaid's Tale, oui. Absolument.
On s'attaque à...
On commence par American Gods.
En commun,
ouais.
Allez.
Allez, ouais, comme ça au moins on pourra tous en parler. Du coup, bon, bah, je vais laisser Travis introduire la série, puisqu'il connaît mieux le producteur. Et,
ouais.
Et
mais après, ce serait bien que ce soit toi qui démarres.
Le scénariste commun. Oui, d'accord.
Ouais, parce que c'est toi le plus frais, tu l'as vu.
Je l'ai vu hier soir.
Voilà.
Oui, alors, American Gods, une série de Brian Fuller, probablement un de mes créateurs de séries préférés de tous les temps.
Ouais.
Allez, hop,
de tous
c'est
les
fait.
Allez, hop.
Qu'est-ce qu'il avait, du coup,
alors,
qu'il avait fait d'autre ?
Brian Fuller, c'est dans l'ordre chronologique, ou presque. Dead Like Me, une de mes séries préférées de tous les temps. Regardez, en plus, il y a un ton exceptionnel, c'est très très bien. Wonderfalls, très bonne série, avec Caroline Davernas, une Canadienne. Pushing Daisies, que tout le monde connaît, pas besoin de présenter Pushing Daisies. Hannibal, dans un genre très différent des autres, avec des visuels
magnifique,
sublimes, c'est presque même trop. C'est presque trop mis en scène, c'est presque trop beau. Ça me sortait un peu du... Je me disais, ah oui, là, ils se sont fait plaisir sur ce plan, et du coup, ça me sortait un peu l'histoire. Et du coup, j'ai pas fini la dernière saison d'Hannibal. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà très
et
bien.
Et donc,
ouais.
Maintenant, American Gods.
Et donc, maintenant, American Gods, coproduit avec Neil Gaiman. Gaiman, je sais pas comment ça se dit. Qui a écrit le livre.
Ce n'est pas l'homme gay, hein, mais...
C'est, on va l'appeler Neil.
Neil.
Quoique, après...
On en reparlera.
On en reparlera.
D'ailleurs, Brian Fuller qui a fait son. Alors, je sais pas si c'est son coming out ou si c'était déjà dévoilé, mais il a reçu une récompense très récemment, pas plus tard qu'hier, pour ses actions LGBT, ses applications, mais ses œuvres aussi.
En faveur du mouvement LGBT.
Exactement. Quoi qu'il en soit, American Gods, centré sur ce livre. Avec le personnage principal de
donc,
Shadow
livre
Moon,
de
Neil
Gaiman.
De Neil.
Gaiman.
Non, Neil, on l'appelle Neil.
Neil, juste Neil.
Juste
ouais.
Neil. Où, vraisemblablement, il y a des dieux qui interagissent, qui ont une
existence.
On va dire
c'est réel sur
exactement.
Terre.
Exactement.
C'est ça, voilà.
Voilà.
C'est l'idéologie un peu de leur place dans cet univers en constante évolution.
C'est ça. Et justement, il semble y avoir... une opposition entre
les
deux
anciens dieux et les nouveaux.
Des anciens, des nouveaux, on ne sait pas encore c'est pas dit clairement. On commence à avoir une idée après deux, trois épisodes. Même dès le premier épisode, on a une idée assez claire. On peut deviner en tout cas. On en parlera à la fin de l'épisode un petit peu avec des spoilers sur le pilote uniquement. Mmh. On signalera aussi. Là, pour l'instant, on va rester sans spoilers. Et donc, Shadow Moon, incarné par Ricky Whittle, qui apparemment avait joué dans V100. Je n'ai pas suivi cette série qui a l'air très bien, mais bon, je ne saurais pas dire. Ian McShane, on en avait parlé déjà dans un podcast d'American Gods.
Au tout début, je crois, on en avait parlé en disant que c'était l'une de nos attentes.
Ian McShane, on voit dans un épisode, on voit qu'il y a Gillian Anderson dans un rôle très sympathique. Mais ils ont tous des rôles très sympathiques. Je pense qu'on peut déjà le dire. Bon, je vais laisser la parole à D-Boy. J'ai un petit peu résumé. S'il y a des choses à ajouter, on le fera après.
Donc, j'ai vu le premier épisode hier soir et j'ai été très, très, très emballé. Vraiment. C'est beau. Les deux personnages principaux, donc Shadow Moon, incarné par Ricky Whittle et Mr. Wednesday, incarné par Ian McShane, sont très bons tous les deux. Le pitch du premier épisode, rapidement. Shadow Moon, donc, c'est le personnage principal, il est en prison pour avoir braqué, pour un braquage à main armée. Quelques jours avant de sortir de Toll, on lui apprend que sa femme est morte dans un accident de voiture et du coup, il est libéré en avance. Il se retrouve coincé dans une ville après que son avion n'ait pas pu décoller. Et il rencontre donc Mr. Wednesday, incarné par Ian McShane, qui lui demande, qui lui propose un boulot. Il lui fait une offre d'emploi, tout simplement. Un peu particulière, puisqu'elle n'est pas signée sur un contrat, mais réglée au cours d'un concours de shot, limite, quoi. Et voilà, chacun son verre, on boit, on se crache dans la main, on se serre la main, c'est bon, tu es mon homme demain. Et puis oui, non, mais tout était très bien, quoi. C'est le déjà rien que le générique,
il est exceptionnel,
magnifique. Il est vraiment génial, il est super bien fait.
Il est dur à comprendre pour l'instant.
Ouais, mais il est plein d'iconographie et je sais pas, j'aime beaucoup cet univers, même musicalement aussi, ouais, l'ambiance qui est posée pendant ce générique. Je sais pas, il y a un truc, ça me séduit immédiatement, quoi.
Exactement, pareil. Donc voilà, j'ai été emballé dès le générique. Quand on voit les premières images, c'est très léché. Il y a une espèce de filtre constant qui est appliqué sur l'écran. Il y a le contraste est très appuyé. Il y a des lumières, des couleurs qui ressortent. Il y a une scène où on voit Shadow Moon monter au sommet dans un parc naturel, au sommet d'une colline, et il surplombe une vallée avec des nuages. Il se met à hurler. Je trouvais ça magnifique, c'est vraiment super beau. Et puis les personnages sont attachants, quoi. Même lui qui, donc le personnage principal, c'est un colosse, black ou indien apparemment.
C'est pas clair le nom.
Shadow Moon.
Je pense que ça doit être, il doit être un métis. Exactement.
Son père doit être. Je pense qu'il y a une histoire derrière ça, mais pour son nom.
Sûrement.
On n'en sait pas
plus.
Mais
du coup, tu t'attendrais à ce qu'il soit un peu plus brut de décoffrage, parce que voilà, il est vraiment massif.
Probablement, mais bon, comme tu dis, il sort de prison, peut-être qu'aussi acquis la maturité, maintenant il agit différemment, mais je pense qu'il l'était, quoi.
Il est très posé quand il faut, quand il faut se déchaîner, il se déchaîne, quoi. Et puis il y a cet univers qui est mis en place avec donc ce fameux Mr. Wednesday dont on sait pas grand-chose, mais on devine que. Quelqu'un de très puissant.
Ce qui m'a frappé dès le départ, c'est le charisme de ce personnage.
C'est McShane.
Oui, au-delà de l'acteur, là maintenant je parle du personnage, qui joue. Parce que certes, oui, Ian McShane a un talent fou, mais le personnage dont il joue est un personnage qui, ça se voit de premier abord, assez vieux, pas forcément bien propre sur lui. Enfin, il est pas dégueulasse, mais voilà, il a un imperméable, on dirait presque Columbo, quoi.
Il
se met à parler, et il y a un charme fou qui sort de ce personnage. On boit ses paroles, et on serait presque prêt à faire n'importe quoi juste parce qu'il l'a demandé.
C'est exceptionnel. Je rejoins un peu Addy Boy, même si je suis d'accord que le personnage est super.
Ça vient d'Ian McShane,
Bon, encore une fois, on en revient à Deadwood, ça va être la gimmick du podcast. Al Swearengen, c'était un peu le même type de personnage, un peu manipulateur, avec toujours de belles paroles. Et ça fait plaisir de retrouver Ian McShane dans ce rôle-là. Après, je ne l'ai pas vu dans de mauvais rôles, Ian McShane.
Je voulais juste souligner le fait que ce n'est pas juste le personnage d'Ian McShane, c'est même le personnage qu'il joue, c'est l'un des traits de Wednesday.
Les dialogues qui sont aussi très bien.
Voilà, les dialogues, je pense, l'une de ses forces, surnaturelles ou pas, on le saura par la suite, mais c'est ce genre de choses où c'est quelqu'un, quand il parle, on l'écoute et puis on accepte. Je veux dire, tous les personnages avec qui il interagit jusqu'à présent, tu ne me contrediras pas, mais dans le premier épisode, à qui que ce soit qui parle, les gens s'exécutent.
Ah oui. C'est une des choses qu'il dit dans l'épisode. Je sais faire très bien deux choses. Je peux m'endormir à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et quand je veux quelque chose, j'obtiens toujours ce que je veux.
Donc ça prouve bien que c'est bien joué parce qu'il arrive à nous le vendre. Ouais. Mais en même temps, c'est l'un des traits du personnage Wednesday qui nous est donné.
Voilà. Que dire d'autre ? La série est très graphique quand même.
Ah, extrêmement.
C'est-à-dire qu'elle elle s'ouvre sur une scène relativement mystérieuse. Est-ce qu'on peut passer à la partie spoiler ? Je sais pas. Bon, c'est
Allons-y, on
y passe.
Voilà, donc partie spoiler, l'épisode s'ouvre sur l'arrivée d'un groupe de vikings sur ce qui semble être l'Amérique, à première vue.
Ah, c'est sûr, c'est même marqué dans le bouquin.
Voyage en Amérique.
C'est probablement la première découverte en fait de l'Amérique.
De l'Amérique, oui, avant celle avant de, d'Éric le Rouge.
Ou de Christophe Colomb plus tard ou quoi, mais enfin, je pense que ça doit être lié à ça, ça doit être la première découverte des terres américaines.
Et donc ce groupe de vikings se retrouve rapidement confronté aux natifs américains, très probablement.
Pas forcément. Quand on voit la quantité de flèches le premier gars se prend en une fraction de seconde, natifs américains, enfin les Indiens d'Amérique de l'époque,
s'ils étaient 200 cachés derrière un arbre, ça passe, ça se fait. Non mais voilà, et du coup, ils essayent donc de prier leur propre dieu pour qu'il fasse du vent. Et ils se rendent compte finalement que
ils veulent repartir,
ils n'ont pas l'intention de rester, ils se sont fait décimer, et ils se rendent compte que finalement seule la violence peut faire venir ce dieu pour qu'il change le sens du vent, ou tout du moins qu'il fasse du vent, et du coup d'abord ils se crèvent chacun un œil. Et à la fin, ils décident de tous se mettre sur la tête. Mais à coups de hache, à coups d'épée, à coups de bouclier.
C'est Braveheart, quoi. C'est deux murs qui s'affrontent.
Il y a des hectolitres de sang qui sont répandus sur cette plage. Ouais. C'est absolument
d'ailleurs
horrible.
C'est un poil trop pour moi. Je trouve que. Après, je comprends que c'est un effet visuel.
Oui.
Je l'ai compris. C'était une crainte avant que je voie l'épisode. Et c'était une crainte de ma part de me dire est-ce que ça va être violent pour être violent ? Après avoir vu donc les deux premiers épisodes, je comprends que non, c'est pas juste là pour être violent, c'est le graphisme qui est associé à ça, c'est le rouge, c'est le contraste, c'est tout ça.
Cependant,
après c'est un peu too much.
On va déconseiller la série aux plus jeunes.
Pour revenir
à la turgescence, il y a des
scènes apparemment de
même au-delà des zizi, c'est très sexuel, c'est très violent, c'est l'Amérique, hein, c'est
ça, il y a aucune censure, c'est ça qui est bien aussi avec Stars, et il y a que Stars et HBO
et
Netflix
Netflix, je suis pas sûr qu'il y ait des parties intimes. Ça doit être possible, mais
c'est juste peut-être qu'il n'y a eu aucun contenu jusqu'à présent.
On va enquêter là-dessus.
Enfin, je vais vous laisser faire. Hein, si vous voulez rechercher des turgescences sur Netflix.
Quoi qu'il en soit, c'est l'un des avantages de Stars qu'on avait déjà vu avec Spartacus. Il n'y a aucune censure, que ce soit en violence, en sexe et en vocabulaire.
Ouais.
Mais il n'empêche que la série n'est pas exempte d'humour. De l'humour noir, mais de l'humour quand même. Par exemple, lorsque le premier viking se fait larder de flèches, il tombe au sol, les autres vikings le regardent, et d'un coup il y a une dernière petite flèche, je sais pas si vous avez vu, qui vient se planter dans son pied. Ça, ils sont là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et il y a plein de passages comme ça où justement c'est un peu oui, c'est de l'humour noir, quoi. Après un moment de violence, il y a un petit truc qui désamorce en fait, bon, très légèrement, mais j'ai bien aimé.
Des petites notes d'humour.
L'une des autres forces, comme tu le disais, Travis aussi, c'est qu'il y a des très bons dialogues.
Oui.
Tu le verras probablement dans les épisodes qui suivent.
Dès ce soir.
On va pas pouvoir en parler là.
On va juste dire qu'il y a notamment.
Moi, il y a un truc dans l'épisode 2 que j'ai trouvé exceptionnel. Vraiment, des tensions entre certaines discussions, certains des personnages, un nouveau personnage.
Il y a des nouveaux personnages.
Génial. Génial.
On va le dire, on va pas dire.
Oui, on peut dire qui c'est Peter Stormare.
Stormare,
il a un rôle
de Prison Break qui était déjà très bien dans Prison Break, même si Prison Break n'a pas que des qualités, mais pour le coup il était vraiment sympa. Et là il a un rôle encore une fois fait pour lui à sa hauteur. Mais de toute façon, Gillian Anderson, lui, vous découvrez au fur et à mesure des épisodes. Orlando Jones, non?
Je sais pas.
Bon,
là,
en tout cas, je vais chercher, mais il y a quelqu'un qui s'appelle soit Jones, soit Bloom, soit Orlando. ça filtre pas mal. Qui a un monologue.
Ah, oui. Ah oui, j'avais oublié cette
scène. Ça se passe dans un bateau, on va dire ça, pour ceux qui l'ont vu.
De l'épisode 2,
bon, voilà.
Tu vas kiffer.
Tu vas voir.
Orlando Jones, autant pour moi, Orlando Bloom.
Exceptionnel.
Il y a des très très bons dialogues. Dans les épisodes 2 et 3, il y a des personnages qui sont introduits à chaque fois, parce qu'il y a toute une flopée, on va dire, de dieux, ou de peut-être pas des dieux, je sais pas, ouais. J'ai des doutes sur certains, qui sont, à chaque fois, c'est des personnages super charismatiques.
C'est génial.
Parfois, ils sont juste introduits, on sait pas pourquoi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Qu'il y a
une tu te rends compte quand même qu'en deux épisodes, on arrive à être super hypé sur un truc où on ne connaît pas encore ni les tenants ni les aboutissants. C'est juste qu'on a des personnages qui discutent entre eux. On a des dieux anciens et des dieux nouveaux. Mais on ne sait rien d'autre pour l'instant.
C'est vrai que concrètement, on est super hypé, quoi. Il se passe peu de choses.
Ouais.
Alors moi, j'ai juste un bémol qu'on a déjà abordé sur la série. Ce n'est même pas un bémol, c'est un bémol possible. C'est le côté trop graphique, trop soigné et trop on veut essayer de gagner des Creative Arts Emmy.
Un peu comme tu disais pour Légion, quoi.
Exactement comme Légion, qui m'a un peu perdu par moments, et exactement aussi comme Hannibal. Mmh. Et encore une fois, j'adore Brian Fuller, mais...
Il risque peut-être de tomber un peu dans ce travers.
Pour l'instant, ça correspond très bien à la série, parce qu'elle est elle-même... Enfin, l'œuvre de base est très graphique. Est très, elle est super, c'est super riche, quoi. Mmh. Mais attention, ne pas abuser des bonnes choses non plus.
Soulignons aussi, donc on l'a dit, que Neil Gaiman, donc c'est tiré donc d'un de ses livres, mais que lui-même est très proche, voire même basé sur un univers de comics à la base. C'est un très gros
Sandman,
et autres. Il a même participé dans d'autres choses sur du Marvel et compagnie. Donc voilà, c'est même si cette fois c'est pas tiré d'un comics mais d'un bouquin, c'est qu'on sait le background de ce personnage et que ça va forcément être c'est de la mythologie, c'est du paranormal, c'est de la psychologie, c'est plein de choses ancrées dans ces domaines-là. Et, voilà, je pense qu'on a bien résumé le truc et on a bien montré à quel point on était tous extrêmement intéressés et on attend la suite, quoi.
Certifié Forumcast et forum.com.
Ouais.
Ça s'annonce très bien. Je pense qu'on en reparlera, ça sera intéressant
de débattre sur une fois terminé, on pourra peut-être faire un
moi,
un
je
épisode
pensais même pas terminer, même pas. Mais une séquence spoiler et théorie sur.
Il faudra en savoir un peu plus, mais oui, quelques absolument.
Ouais, c'est un peu tôt.
Alors, on peut redire aussi, on peut souligner que saison 2 déjà confirmée, quoi.
Bonne remarque, saison 2 déjà confirmée. Tout comme la série.
Après seulement 2 ou 3 épisodes, c'est
beau
quand même.
Bon, ça a fait une très bonne audience pour Starz. On va voir si ça se maintient. Mais en tout cas, Starz n'a pas des attentes.
Ouais, c'est pas pareil que Netflix.
C'est pas comme Fox ou NBC et compagnie. Hein. Donc, ça se compte pas en millions. C'est plutôt en 900 000.
D'accord. Mais bon, ça a dû leur coûter du pognon quand même. Parce que vu les acteurs et vu la production,
ça doit être un budget.
Ça doit être un sacré budget.
Mais Starz misait beaucoup là-dessus.
C'est intéressant.
Bon, bah, du coup, on peut passer au deuxième gros morceau.
Oui,
une autre série.
Qui a aussi été renouvelée pour une saison 2.
C'est vrai ?
Oui, déjà.
Ok.
La première en a 10 épisodes. Donc, c'est The Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale.
Série dystopique.
Hulu.
Comme vous voulez. Qui est donc diffusée sur Hulu. Série dystopique.
Dystopique ou dystopéenne ?
Dystopique. Je dirais dystopique.
T'en choisis un et puis. Non, j'ai dit dystopique, mais je l'ai peut-être
lu. Cyclopéen, mais dystopique.
D'accord.
Aucun rapport.
Okay.
Merci à D-Boy pour
cette
précision.
Adapté d'un roman, voire de plusieurs romans, non, d'un seul roman, je crois, qui a un best-seller. C'est une Canadienne, je crois, qui l'a écrit.
Mm-hmm.
Une série avec Elizabeth Moss, Mad Men. Top of the Lake aussi. Yvonne Strahovski.
Ouais.
La très jolie.
Alexis Bledel.
Très joli.
Ah oui, oui.
Ouais,
il y a vraiment du beau monde.
De Gilmore Girls.
Et
Joseph. Alors c'est
Joseph Fiennes.
Fiennes, c'est le frère. De Flash Forward. Voilà.
Mais d'autres trucs aussi. Mais en regardant l'épisode, j'étais à me dire, je le connais.
Finesse. Enfin,
Le
frère de, de Ralph.
Exactement.
Oui, oui.
Le frère de Ralph. La prononciation de son nom.
Fiennes.
En anglais, c'est Fiennes.
C'est irlandais ?
Non, c'est de l'anglais, je pense.
C'est anglais.
Après, l'origine exacte, j'en sais rien.
Bon,
Bref, une série centrée sur une handmaid dans un monde pas futuriste, mais en tout cas,
on se passe dans un futur proche.
Voilà,
exactement. C'est un futur proche. C'est pas nos années. On est un peu plus tard, mais on n'est pas non plus en 2050.
Voilà.
Je pense.
La société, les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont actuellement. Il y a des allusions sur ce qui s'est passé.
En fait, on ne sait même pas. On sait juste que la société dans laquelle le personnage principal se trouve, on ne sait même pas où est-ce que se trouve cette société réellement.
Si.
Ah bon ?
Si, je pense que c'est dit même dans l'épisode 1.
Parce que moi, j'ai vu que le 1, hein, donc pour info...
Bon, comme je te disais, il y a pas mal de bribes. Au fur et à mesure, moi, j'ai vu les 4 premiers. Enfin, j'y reviendrai après, mais je suis accro maintenant. Peu à peu, on apprend ce qui se passe.
Ouais. D'accord. C'était un de mes espoirs. Après, à la limite, je vais peut-être juste commencer, puisque toi, t'en as vu plus que moi.
Ouais, mais si tu veux le faire, préciser un petit peu à quoi cette société ressemble. Et notamment, sans aller dans le spoiler sur le rôle de la Handmaid, mais comment les classes...
En gros, je pense que le choc le plus important, et tu me contrediras si je me trompe, mais c'est qu'on arrive dans une société qui n'est plus capable de procréer.
Oui, il y a un gros problème de fertilité.
Exactement. Donc on arrive dans une société un peu plus contrôlée où les naissances ne se font pas de façon...
naturelle.
On ne va pas dire le mot naturel, mais elles ne viennent plus dans des proportions et des dispositions
telles
qu'on les connaît aujourd'hui. Mmh. Et c'est un gros problème et toute la nouvelle société, on va dire, s'articule autour de ça et un nouveau régime est mis en place autour de ça, avec des règles et des...
C'est plus qu'un régime. Enfin, c'est un régime, mais c'est un régime dictatorial.
Ah oui, ça ressemble énormément à une dictature, voire même presque, il y a une certaine notion, là où j'en suis, je pourrais pas dire, mais il y a presque une grosse notion religieuse.
Oui,
mais
tu verras que c'est exactement ça.
Voilà.
C'est d'ailleurs assez curieux parce que s'il y a des choses qui font des allusions à la Bible, mais on sent que c'est même pas la Bible.
Non, c'est probablement quelque chose de réécrit.
Une sorte de réinterprétation, possiblement de la Bible. Là,
probablement vers ça que ça va, quoi.
Et donc, il y a vraiment des règles, des cérémonies,
des habitudes de vie. Il y a même des positions sociales totalement différentes.
L'handmaid, c'est une aide ménagère. Qui a un rôle plus important que ça, mais on va pas spoiler parce que c'est vraiment un des twists du pilote. Il y a aussi des Martha qui sont là juste pour faire à manger, qui sortent jamais. Mmh. Il y a des hommes qui sont juste les chauffeurs.
D'accord.
Et il y a le commandeur et sa femme qui eux sont un peu les rois de la maison qui en tout cas ont
plus grosse position.
En gros, c'est un peu, on revient un peu sans que ce soit vraiment ça, mais il y a un peu cette position de maître esclave. On va dire que t'as tes domestiques et t'as le chef de la plantation, on va dire presque. Hein,
c'est complètement ça. C'est de l'esclavage moderne, une variante qui va très loin. Alors déjà l'esclavage c'était horrible, on est d'accord,
mais c'est encore pire.
Et alors t'as vu l'épisode 1 où il y a une scène qui est quand même difficile, d'accord, c'est pas pour une série pour les enfants. Dans la suite de la série, j'ai vu les 4 premiers comme je le disais, c'est pareil, ça reste toujours aussi glauque et sombre, mais très très bien, parce qu'on sent que derrière il y a un univers très riche et que les personnages sont intéressants. Elisabeth Moss, elle a fait ses preuves, je crois qu'elle a eu des Emmy et tout. Mais avec Sibley Dell, elle a un rôle très très sympa qui se développe, qui au début a l'air banal, mais qui est développé. Et je vous encourage à regarder les 3 premiers pour vous faire un avis.
Une bonne idée.
Ne pas s'arrêter qu'au premier.
Ouais, le premier, c'était un peu compliqué pour moi. Il est un peu lent, un peu dur de rentrer dans cet univers. Mais après, c'est vraiment prenant. Et il y a des très belles performances et des twists et des scènes assez horribles, mais intéressantes à regarder paradoxalement, parce que ça fait réfléchir aussi. Je fais une petite aparté et puis après je te repasse la parole à Metaneo. C'est une série qui a une résonance particulière, notamment aux États-Unis en ce moment. Où il y a Trump,
ça fait réfléchir parce que c'est probablement un univers possible pour nous demain.
C'est ça. Je pense que si la série était sortie un peu plus tôt, elle paraît très peut-être même pas crédible.
Ouais.
Et là, quelque part, il y a notamment des lois sur la santé qu'il a fait récemment, où les femmes se retrouvent. Alors, j'ai pas le détail, je suis pas un politicien, etc. Mais j'ai lu des choses. Effectivement, il y a des choses assez aberrantes envers les femmes et pas que. Et là, c'est une résonance vraiment spéciale. Ouais. Donc voilà. Mais au-delà de cet aspect un peu politique, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus à la base, il y a une très bonne intrigue et des très bons personnages.
Ouais. Moi, c'est ce que j'ai regardé ça hier soir. J'ai vu que le premier. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été très intrigué. Et, j'ai aimé ce que j'ai vu. Et j'ai envie d'aller plus loin. Maintenant, j'avais qu'une seule crainte. Et tu m'as plus ou moins rassuré là-dessus. J'avais peur que la façon dont ça allait se passer, que ce serait exclusivement et presque même trop centré sur juste les personnages principaux de notre de qui nous sont donnés. Or, tu m'as un peu dit quand même qu'on allait savoir comment ça, on en arrivait là, qu'est-ce qui était arrivé.
Alors, rectification, on a des bribes et voire des flashbacks clairs, oui, mais toujours du point de vue du personnage principal.
Certes, mais si ça, parce que clairement, moi, ce qui m'intéresse maintenant en allant plus loin dans cette histoire, c'est de comprendre ce qui est arrivé à cet univers dystopien. Ou dystopique. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas dire que l'histoire principale des personnages ne m'intéresse pas. Mais c'est juste que pour moi, il faut que l'histoire de ces personnages-là m'amène vers ça. Ouais. Si ça va tourner que autour de eux, c'est toujours très intéressant. Mais ça risque peut-être un petit peu à un moment de me lasser en me disant bah, ben voilà, le contexte dans lequel ils sont placés est tellement intéressant que j'ai aussi envie d'en savoir plus sur qu'est-ce qui les a amenés là, pourquoi est-ce que cette société est comme ça maintenant. Donc voilà, moi je vais avoir besoin d'avoir ces réponses-là. Tu me dis qu'il commence un peu à rien avoir. Va falloir espérer que jusqu'à l'épisode 10 ça continue à aller comme ça et que ce soit pas que la résolution de ce personnage principal. Même si c'est passionnant, c'est ça dont la série parle. J'ai pas envie que la série parle que de cet univers dystopique. Hein.
Ce qui est intéressant, c'est la société et tous les petits détails dans lesquels ils vivent actuellement. Je parle même pas de la création parce qu'il y a des réponses, mais je sais pas s'il y aura des réponses très claires non plus. Il y a vraiment des flashbacks. Donc
ouais.
C'est ça qu'il faut dire, la
série tourne sur un système aussi de flashbacks où on revient souvent dans ce que nous on connaît.
D'accord,
c'est un passé, comme j'ai dit, qui est très proche quand même. Hein. Je veux dire, il est mention d'une année 2015, je crois, à un moment sur un graphique. Je pense qu'on est vraiment dans un futur très proche. Et donc, les flashbacks sont un moment contemporain actuel pour nous.
Il y a des flashbacks, il y a aussi des flashbacks post ce qui s'est passé. On voit l'héroïne.
Oui, aussi. Il y a deux types de flashbacks, c'est vrai.
Découvrir un peu cette nouvelle société qui lui est imposée et qui s'est imposée.
C'est vrai.
D'accord.
Voilà. Donc, une série assez dure et qui aborde des sujets vraiment... Alors, le twist du premier épisode où c'est déjà... c'est sujet lourd et ça ne s'arrange pas par la suite. Mais très bien traité et très intéressant, qui fait réfléchir. Belle série, a priori.
Ouais, c'est bien.
Eh bien, écoutez, vous m'avez bien hypé, messieurs. Je pense que je vais regarder les trois premiers épisodes pour me faire une petite idée. Parce que là, ça... Moi, je craignais que ce soit un truc un peu trop cucu.
C'est pas aussi graphique.
C'est tout sauf cucu, quoi.
Visuellement, par contre, j'ai trouvé ça pas exceptionnel. C'est classique.
Ils ne peuvent pas se permettre de faire quelque chose d'aussi travaillé qu'American Gods en termes d'image, parce qu'il faut que ça ait un côté réaliste.
Ouais, mais même, tu vois, il y a des plans
qui sont bien travaillés.
Non, il y a des plans qui sont bien travaillés ou quoi, mais l'image en elle-même, je les trouve... C'est un peu péjoratif pour ceux que je vais qualifier, mais j'ai trouvé ça très british. Même si ce n'est pas du tout british, mais j'ai retrouvé un côté filmé à la british, dont je ne suis pas fan.
Je ne vais pas dire british, mais je vais dire Hulu.
Bah, peut-être, je n'ai pas l'expérience, mais moi ça m'a rappelé une série comme...
C'est la première série de Hulu qui m'intéresse. Toutes les autres, je l'ai trouvé un peu cheap,
rien regardé,
pour le coup.
Il y avait
celle avec James Franco.
Ah, 11-23, ou je ne sais pas quoi, là.
Ah oui, il a fait sur l'assassinat.
Moi, j'ai trouvé ça un peu... limité en termes de production et pas passionnant au final. J'ai arrêté rapidement.
D'accord. Okay. Mais ouais, voilà. Après, c'est absolument pas un point négatif de la série. Ça vient pas entacher. Je viens juste souligner que je me suis posé cette question pendant l'épisode. Je me suis dit, tiens, la production est pas... Elle est très correcte, mais l'image, ça me faisait penser un peu à ces séries où, à part certaines couleurs vives qui sont là pour être très présentes, le reste me paraît un peu terne.
Il y a un très gros travail de décor et d'accessoires, par contre.
Oui, mais simpliste, mais qui va avec l'univers.
Simple et efficace. Même pas simple, moi je dirais pas simple, je dirais travaillé et réussi. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire sur l'image. Mais ça choque pas.
Non, ça choque pas.
Je pense que c'est une série à récompense. On verra. En tout cas, pour les actrices.
L'avenir nous le dira.
Ouais.
Bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce 9e épisode. Avant de dire au revoir à tout le monde, j'aimerais juste faire passer un petit message. Nous avons appris hier la mort de Powers Booth.
Oui.
Qui était dans Agents of S.H.I.E.L.D.
Et Deadwood.
Qui jouait dans Agents of S.H.I.E.L.D., qui jouait dans 24 et 24 Legacy.
Non, 24, pas Legacy.
Die Another Day, non, c'était quoi
Live Another Day, peut-être.
Live Another Day. Oui, Diane Overdé, c'est un très mauvais James Bond. Et du coup, je voulais conseiller deux films dans lesquels il avait joué. Le premier, je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui l'a vu, mais c'est Sin City.
Oui, Sin City.
Dans lequel il joue le sénateur Rourke. Et le deuxième, c'est un film de Walter Hill qui s'appelle Sans Retour en français et Southern Comfort en version originale, qui raconte l'histoire d'une bande de réservistes de la garde nationale américaine qui, pendant un week-end d'entraînement dans le Bayou en Louisiane, se font chasser par des Cajuns. C'est un petit survival. Bon, il est assez vieux, le film, il date des années 70, je crois, donc bon, les effets sont un peu passés. Très très sympa, et puis il y a la patte Walter Hill derrière, donc c'est le mec qui a fait Les Guerriers de la Nuit, The Warriors, je sais pas si vous voyez, c'est un gros film culte, quoi.
Oui.
Donc voilà, et on voulait lui dire repose en paix, Powers.
Ouais. Très charismatique.
Très bon dans les rôles de méchant. Ouais. Il avait une
voix exceptionnelle.
Belle grosse voix, bien rauque. Donc voilà, c'est un petit peu dommage.
Ouais.
Donc cet épitaphe signe la fin de notre 9e épisode.
Oui.
Et j'en profite pour signaler que si vous rendez sur le site forum.com avec deux O, voire trois si vous comptez celui de com, vous pourrez participer à un petit concours basé sur ce podcast avec des lots sympathiques à gagner, des coffrets DVD, des coffrets Blu-ray, wow. Et une figurine.
Voilà. Si on a participé à la création du podcast, on peut jouer ?
On peut jouer.
Que dalle.
Que dalle. Bon, tant pis.
Merde.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre donc sur le site forum.com pour voir les tenants et aboutissants de ce concours qui vous verra sûrement gagner de bien jolies choses.
Oui.
Donc voilà, on vous donne rendez-vous très rapidement, même si en ce moment, bon, c'est vrai que les rythmes de publication sont un petit peu ralentis. Bon, les impératifs de travail sont ce qu'ils sont. En attendant, on vous remercie, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt.
Ciao.
À bientôt.